Radio Prague, les informations.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de Radio Prague. Jeu de hasard, nouvelle forte hausse en 2016. Des étudiants tchèques ont remporté un prestigieux concours international grâce à un projet pour aider les enfants diabétiques et puis ouverture à Uherské Hradiště de la 41e école d'été du film. Ce sont les trois principaux titres de ce vendredi. 196 milliards 400 millions de couronnes, soit environ 7 milliards 550 millions d'euros. C'est le montant total de la somme record que les Tchèques ont misé dans les salles de jeu, les bureaux de Paris ou encore sur Internet en 2016. Il s'agit d'une augmentation interannuelle de 29% qui fait suite à une hausse précédente de 10% en 2015. Les chiffres ont été communiqués par le ministère des Finances ce vendredi. Les jeux en ligne notamment sont le moteur de cet engouement. Auteur d'un projet qui sert à aider les enfants atteints de diabète, une équipe de trois étudiants tchèques de l'Université technique de Prague a remporté l'Imagine Cup, prestigieux concours technologique international réservé aux lycéens et aux étudiants organisé par Microsoft. Lors de la finale organisée aux États-Unis, les étudiants tchèques ont battu 54 équipes du monde entier et remporté un prix d'une valeur de 250 000 dollars. C'est la première fois qu'une équipe tchèque remporte ce concours. Les lauréats ont développé un nouveau glucomètre de la taille d'une carte bancaire connectée à un smartphone. Cet équipement est destiné notamment aux enfants pour lesquels respecter la discipline que nécessite le traitement de leur maladie pose problème. Ce nouveau glucomètre sert donc à les motiver à respecter les régimes. Par ailleurs, leurs parents peuvent être informés de l'endroit où se trouvent leurs enfants au moment de la dernière mesure de leur taux de glucose en cas de choc glycémique. Le nombre de soldats de l'armée tchèque devrait augmenter de 7000 dans les 5 à 7 années à venir. C'est ce qu'a indiqué le ministre de la Défense, Martin Stropnický, ce vendredi lors de son déplacement à Brno où il a participé à une cérémonie de fin d'études organisée par l'Université de la Défense. Actuellement, la République tchèque dispose de quelque 23 000 soldats. Le constructeur automobile tchèque Škoda Auto a réalisé au cours du premier semestre un nouveau chiffre d'affaires record. Pour la toute première fois de l'histoire, son montant a en effet dépassé la barre de 8 milliards d'euros. La société de Mladá Boleslav, filiale du groupe allemand Volkswagen, a vendu pendant les 6 premiers mois 585 000 véhicules. Ces données ressortent d'un dossier de presse publié par l'entreprise ce vendredi. Trois semaines après le baisser de rideau sur le Festival international de Karlovy Vary, c'est une autre manifestation festive cinématographique d'importance qui s'ouvre ce vendredi en République tchèque avec la traditionnelle école d'été du film d'Uherské Hradiště. Jusqu'à samedi prochain, 6 août, le cœur de la ville de Moravie du Sud va donc battre au rythme du cinéma. Pour la 43e édition du plus important festival tchèque sans compétition, les organisateurs ont décidé de mettre à l'honneur la cinématographie suédoise, l'œuvre du réalisateur soviétique Andrei Tarkovsky. Le festival de musique folk Prázdniny v Telči, les vacances à Telč en français, débute ce vendredi soir dans cette petite ville située à la frontière entre la Bohême et la Moravie, inscrite sur la liste de l'UNESCO. La programmation démarre avec le concert de la chansonnière slovaque Sidi Tobias et du groupe de musique swing Funny Followers. Cette 35e édition proposera jusqu'au 13 août prochain quelques 70 groupes tchèques et étrangers. On termine comme toujours avec un mot de météo. Samedi, le soleil brille de nouveau sur le ciel tchèque. Toutefois, quelques nuages et même la pluie peuvent apparaître dans la partie nord-ouest du pays. Les températures sont très douces et vont de 24 à 28 degrés pour les maximales. Dans le sud-est du territoire, le mercure peut monter jusqu'à 30 degrés. Ce samedi, on fête toutes les Marta. C'est la fin de ce bulletin d'information. Alžbeta Ruškova vous remercie de votre attention. La suite de notre programme vous sera présentée par Com de Landry. Très bonne écoute.
Faits et événements en République tchèque.
Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci à Alžbeta Rožková pour son bulletin d'information et surtout merci à vous d'être à l'écoute de Radio Prague. À suivre, nous ferons un point sur le théâtre tchèque présent au Festival d'Avignon qui touche à sa fin. Nous passerons ensuite au football avec un bilan des matchs européens de ces trois derniers jours pour les clubs tchèques. Et pour terminer cette émission, vous retrouverez notre revue de presse hebdomadaire présentée par Alena Gebertova. Une des plus importantes manifestations internationales du théâtre vivant contemporain, le 71e Festival d'Avignon, touche à sa fin. Pour en savoir plus sur les traces du théâtre tchèque que l'on peut trouver dans l'ancienne cité des papes, Magdalena Hrozinková a joint Alice Mutspiel, journaliste tchèque indépendante, présente sur place.
Alice Mutspiel, bonjour.
Bonjour.
Le théâtre tchèque est représenté au Festival d'Avignon comme un peu tous les ans par le théâtre de Václav Havel. Cette année, trois pièces ont été jouées de Václav Havel, Audience, Vernissage et Pétition. Ils ont été présentés par une compagnie parisienne. Pourriez-vous la présenter et en dire plus sur l'accueil qui a été réservé au théâtre de Václav Havel, au Festival d'Avignon cette année?
J'ai vu deux de ces trois spectacles. Je pense que l'accueil est très bien. Je parlais avec monsieur le metteur en scène Nicolas Pitakai et avec la production. Ils sont contents car les spectacles sont très bien vus. Il y a beaucoup de publics jeunes qui réagissent très positivement. Il y a 20 à 30 personnes qui viennent tous les jours. Donc, ils m'ont dit que, par exemple, le vernissage est beaucoup plus visité que les autres spectacles. Peut-être, probablement, parce que le vernissage est l'œuvre le plus connue de Václav Havel.
Pourriez-vous présenter la compagnie Libre d'Esprit qui interprète ces trois pièces de Václav Havel?
Compagnie Libre d'Esprit, qui est quelque part gérée par un jeune metteur en scène d'origine de Kosovo, ce qui est intéressant, s'occupe en fait ou met en scène les pièces de Václav Havel déjà depuis 2003. Ils sont commencés par le simple lecture. Après, ils ont trouvé qu'en fait, les œuvres de Václav Havel n'est pas du tout connues au public français, que Václav Havel est plutôt connu comme président, dissident. Et les gens, ils ont un peu peut-être préjugé, comme ils m'ont dit. Ils pensent que les pièces de Václav Havel sont trop intellectuelles ou peut-être trop lourdes. Quand le public voit les pièces de Václav Havel, il voit cet humour qui est présent dans les pièces, où il rit, où il s'amuse très bien. Ça soulage, ça donne un très bon point de vue sur les pièces de Václav Havel.
Il y a un autre spectacle, pas vraiment tchèque, mais disons tchécoslovaque, qui obtient un grand succès au Festival d'Avignon. C'est un spectacle de danse d'une troupe slovaque de Bratislava. C'est un spectacle qui, en fait, modernise la tradition de la danse de tous les pays d'Europe centrale. Pourriez-vous en dire un peu plus?
Oui, avec un grand, grand plaisir. J'ai vu le spectacle déjà deux fois, j'étais présente. Je parlais avec le chorégraphe, monsieur Dusan Egli, et avec la production. Et le spectacle a énorme succès. Tous les jours, il y a vers 100 spectateurs qui viennent voir fine-tuning. Le spectacle s'appelle fine-tuning, ce qui veut dire en français accord parfait.
C'est un spectacle qui est joué sur la musique de Haydn.
C'est ça, c'est très complexe. Je pense que c'est pour ça que la pièce a un grand succès, parce que Monsieur Egli, il a fait des grandes recherches, né déjà tchécoslovaque. Après, il a fait des recherches en Hongrie, en Bulgarie, en Roumanie. Et il a utilisé la musique de Haydn, Haydn même, qui est vu par les Français comme un compositeur de Vienne. Il est sorti pour ses œuvres de la musique classique, de la musique traditionnelle. Et deuxième auteur, c'est l'auteur de la musique traditionnelle, László Kelemen. László Kelemen, il a fait aussi des grandes recherches. C'était le premier qui a enregistré tous les groupes d'Europe centrale sur un phono.
Le spectacle évoque aussi de multiples sujets d'actualité, comme l'exclusion sociale, la violence familiale. De quelle manière ?
Quelle manière ? Comme le spectacle est conçu de ballet et danse de tradition, pour moi personnellement, je vois en fait une fête de village quelque part où à la fin les hommes se séparent, les femmes se séparent. C'est dans le mouvement en fait. Et à la fin, quand l'homme rentre à la maison, la femme est battue. Bien, tout ça, on peut voir très fortement dans le spectacle.
Après la culture, on passe au sport. Le week-end à venir sera marqué par la reprise du championnat de République tchèque de football. Une reprise très attendue en raison notamment de l'activité des deux grands clubs de Prague sur le marché des transferts durant l'intersaison. Mais avant cette première journée de l'exercice 2007-2018 d'une compétition nationale rebaptisée HET Liga, le Slavia et le Sparta justement, mais aussi le Viktoria Plzeň et Mladá Boleslav étaient en lice en Coupe d'Europe mardi et jeudi, et tous avec des sorts très distinct. Guillaume Narguet.
Tandis que le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň, qui ont fait leur entrée dans la compétition au troisième tour préliminaire, s'efforceront de devenir les premiers représentants du football tchèque depuis 4 ans à se qualifier pour la phase de groupe de la prestigieuse Ligue des Champions, le Sparta Prague et Mladá Boleslav seront eux satisfaits s'ils parviennent à passer l'automne en Ligue Europa en compagnie de Zlín. Zlín directement qualifié pour la phase de groupe en tant que vainqueur de la Coupe de République tchèque la saison dernière. Le Sparta, désormais entraîné par l'Italien Andrea Stramaccioni, sera d'autant plus satisfait et soulagé après sa défaite 2-0 concédée jeudi soir sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade, dans l'ambiance traditionnellement brûlante du stade surnommé Maracana. Les Pragois, qui peuvent s'estimer heureux de ne pas être repartis de la capitale serbe avec des valises plus lourdes, sont restés hors sujet durant la totalité de leur premier match officiel de la saison. Et malgré sa dizaine de recrues étrangères, le Sparta aura fort à faire jeudi prochain devant son public pour renverser la vapeur et se qualifier pour les barrages. Un retour compliqué, c'est également ce qui attend Mladá Boleslav en Albanie. Bien que dominateur, le club de Bohême centrale a dû se contenter d'un succès 2-1 à domicile contre le KF Skenderbe Korçë. On ne répétera pas, un maigre avantage qui ne lui laissera guère de droit à l'erreur. En Ligue des Champions, le Slavia Prague et le Viktoria Plzeň ne disposeront guère de plus de marge de manœuvre lors du retour. S'il a ramené un résultat positif de son déplacement en Roumanie, un match nul 2-2 mardi, le club de Bohême de l'Ouest peut toutefois regretter de s'être laissé rejoindre 2 fois au score par le FC Steaua Bucarest. Avec l'ancien sélectionneur Pavel Vrba de nouveau à sa tête, le Viktoria devra donc encore batailler à Plzeň pour décrocher sa qualification. Enfin, c'est partagé entre la satisfaction d'avoir gagné sans encaisser à domicile 1-0 et la frustration de n'avoir pas marqué davantage de buts malgré une supériorité numérique de 70 minutes que le Slavia a quitté ses nombreux supporters au coup de sifflet final de la réception des Biélorusses du Baté Borisov. 1-0, un résultat mi-figue, mi-raisin, comme l'a concédé à l'issue de la rencontre au micro de Radio Prague le milieu international camerounais du Slavia, Michael Ngade.
C'est toujours une joie de gagner. On connaît comment les championnats européens, comment ça se passe à ce jour en aller-retour. C'est vrai que nous sommes joyeux d'avoir gagné, mais quelque part, il y a un peu de regret parce qu'il fallait, gagner avec un peu plus d'écart. Nous avons été en supériorité numérique pendant plus de 60 minutes, je crois. On aurait dû utiliser cette chance-là pour pouvoir mettre encore un peu plus de buts. Mais bon, cela n'a pas été fait. Il va falloir être costaud au match retour là-bas chez eux. Essayer de ne pas encaisser et puis voir comment marquer.
Vous avez touché 2 fois les montants. Mais alors vous avez manqué un peu de réussite, mais quoi d'autre encore pour marquer au moins ce deuxième but?
Ouais, c'est vrai qu'il a manqué un peu de réussite, mais il faut aussi voir que c'est notre tout premier match de la saison. Les automatismes, ils ne sont pas encore en place. Mais je suis sûr qu'avec le temps, le match retour, on va essayer de corriger ce qui n'a pas marché. Je crois qu'il fallait un peu plus de tirs au but, je crois, et jouer un peu plus avec la verticalité. C'est ce qui nous a peut-être un peu manqué aujourd'hui, mais on va essayer de corriger cela au match retour.
N'avez-vous pas un peu trop balancé dans la surface à certains moments par manque de solution ou de patience?
Non, c'est vrai que vers la fin du match, on a un peu perdu la patience. On essayait de jouer sur tous les ballons devant. Mais les solutions n'ont pas manqué. Ils étaient en place, faut pas oublier cela. Cette équipe était bien en place, elle défendait presque devant la surface, elle ne montait pas. Ils sont costauds derrière. Ils ont su bloquer toutes nos contre-attaques, ils ont su fermer tous les espaces, mais on n'a juste pas trouvé le petit ingrédient qu'il fallait.
Maintenant, c'est un match très délicat qui vous attend en Biélorussie.
Ouais, c'est sûr, c'est un match délicat. Là-bas chez eux, ils sont toujours costauds, ils sont toujours forts là-bas chez eux. On va essayer de jouer le même football qu'on a eu à jouer aujourd'hui, être aussi costaud derrière et surtout ne pas encaisser.
Pour vous enchaîner ce début de saison après la Coupe des Fédérations avec très peu de repos entre la fin de saison dernière et l'ouverture de cette nouvelle, comment vous sentez-vous? On vous a vu très présent dans le jeu en touchant aussi beaucoup de ballons.
Ouais, c'est vrai que je ne me suis pas assez reposé. Bon, après, j'ai mis cela de côté. La période de vacances, elle est passée. Je me suis dit que voilà, si l'entraîneur il avait besoin de moi et l'équipe ici, je devais être présent. J'ai passé, je crois, deux semaines de vacances avec ma famille. Ça a été réconfortant pour moi. Je me suis un peu ressourcé. La nouvelle saison, elle est repartie. Il faut se remettre en place. Et puis voilà, je vais faire une somme de professionnel.
Dernière question, vous avez eu une énorme occasion en première mi-temps, même une deuxième, un coup de tête sur un corner. Qu'est-ce qui vous a manqué pour la mettre au fond?
Sur la première occasion, le ballon, il m'a surpris. Et le gardien, il a juste eu ce réflexe là de balancer sa main et puis ça a souri. Sur la deuxième occasion, je ne sais pas, j'ai juste monté, j'ai mis la tête et puis le ballon il est sorti, je ne pouvais rien de plus. Peut-être la prochaine fois, il va falloir mieux cadrer.
C'était le milieu de terrain camerounais du Slavia, Michael Ngade. Et on passe maintenant à notre revue de presse, le miroir de la société. La tradition et la popularité auprès de la population tchèque de la cueillette des champignons, tel est le premier sujet qui est abordé dans cette nouvelle revue de presse présentée par Alena Gebertova. Quelques extraits ensuite d'un texte qui explique pourquoi il convient de ne pas sous-estimer, comme cela est aujourd'hui souvent le cas en Tchéquie, l'importance de la formation dans les disciplines littéraires. L'existence d'un nombre relativement élevé de biens immobiliers inoccupés est un autre sujet qui sera également traité. Enfin, nous évoquerons le problème des retombées de la mauvaise qualité de l'air sur la santé des Pragois.
Miroir de la société à la lumière de la presse.
La période propice à la cueillette des champignons, tellement attendue par une majorité des Tchèques, est enfin arrivée. Le supplément Relas du quotidien Lidové-Noviny a consacré à cette pratique très populaire dans le pays son éditorial dans lequel on peut lire.
Des innovations techniques touchent désormais aussi la recherche des champignons, qui est un des passe-temps favoris des Tchèques durant l'été. Pour se faciliter la tâche, ils peuvent désormais consulter des plans sur Internet, puiser et partager des informations sur les réseaux sociaux, se promener dans la forêt avec des données indiquant les endroits favorables. Pour la première fois cette année, les passionnés de cueillette peuvent également utiliser une application mobile qui présente près de 200 champignons tchèques, les plus connus, avec une description détaillée et des photos.
La cueillette des champignons est répandue depuis très longtemps dans les pays tchèques. C'est pourtant grâce aux activités du mycologue František Smotlacha, auteur de 1947 de l'Atlas des champignons comestibles et non comestibles, la première publication du genre accompagnée de photos en couleur, qu'elle a connu un vaste développement. František Smotlacha a testé seul la comestibilité de 1700 espèces de champignons afin de prouver que la majorité d'entre eux sont effectivement comestibles. Il a aussi organisé à Prague, avant la Première Guerre mondiale, une première exposition de champignons. Bien que le nombre précis d'espèces qui poussent aujourd'hui sur le territoire tchèque n'est pas précisément recensé, près de 10 000 ont néanmoins été identifiés à ce jour, parmi lesquels 250 non comestibles. L'auteur du texte observe également.
La viande des pauvres, ainsi appelait-on autrefois les champignons. Aujourd'hui, en revanche, ils sont appréciés des amateurs d'une cuisine raffinée et proposés dans les meilleurs restaurants, dont on ne citera à titre d'exemple que le restaurant Alcron de Prague du guide Michelin. Outre les champignons et les plats traditionnels, les Tchèques ont appris à apprécier et à rechercher aussi les champignons exotiques. En ce qui concerne la culture des champignons, elle est devenue une branche agricole indépendante.
Critiquer les formations humanitaires est à la mode actuellement en Tchéquie. Et pourtant, historiens et sociologues sont pour nous aussi importants que les start-ups dans la Silicon Valley. C'est ce que souligne un texte mis en ligne sur le site du quotidien économique Hospodářské Noviny, dont l'auteur se penche sur les écueils d'une telle approche.
On aime à prétendre que les écoles supérieures sont censées former en premier lieu des professionnels technocrates. Dans cette logique, un plus grand accent devrait être mis également sur les centres d'apprentissage. Évidemment, le pays a besoin de techniciens, d'informaticiens ou encore de soudeurs, car la Tchéquie occupe une des premières positions à l'échelle européenne avec la part prise par la production industrielle dans son économie. Toutefois, on ne peut accepter l'idée qui prévaut selon laquelle une formation humanitaire est quelque chose d'inutile.
Les Tchèques sont fiers des succès de leurs scientifiques, tandis que ceux des chercheurs humanitaires sont peu reconnus. Le problème est que la majorité des historiens, philosophes ou sociologues évitent les médias et l'espace public, celui-ci étant toujours occupé par le même groupe de personnes. Et pourtant, comme le souligne l'auteur, il existe de nombreux cas qui témoignent des performances haut de gamme d'un intellectuel tchèque dans le monde. Selon lui, le mépris pour les disciplines humanitaires constitue une menace pour la démocratie. Il conclut que si cela continue de la sorte, on ne saura bientôt plus ce que représente la démocratie, le meilleur des systèmes de gouvernance qu'il faut protéger et renforcer. En Tchéquie et notamment à Prague se trouvent de nombreux biens immobiliers inoccupés depuis longtemps. On estime à 1660 le nombre de ces bâtiments inhabités qui pourraient offrir un logement à quelque 13 000 personnes. Dans un contexte où la demande de logement dépasse largement l'offre, L'occupation de ces appartements ne résoudrait certes pas l'ensemble du problème, mais elle pourrait y contribuer considérablement. Le quotidien Lidové-Noviny apporte quelques précisions à ce sujet.
Dans la capitale, des immeubles avec des appartements vides se trouvent même dans des quartiers qui sont pourtant de bonnes adresses. Vinohrady, Strechovice, Brzezvnov, Malastrana, Vielville, Hradčany. Les raisons sont multiples. Il s'agit par exemple de bâtiments que leurs propriétaires n'envisagent pas de rénover en raison de leur état déplorable, ou dont ils reportent une vente qu'ils espèrent plus lucrative. Et comme certains biens immobiliers inoccupés appartiennent aux mairies d'arrondissement ou à la municipalité de Prague, les différents processus de décision et de réalisation qui s'inscrivent dans la politique communale traînent en longueur. Des rapports patrimoniaux non transparents entrent également souvent en jeu.
L'article publié dans Lidové-Noviny remarque enfin que selon les prévisions démographiques pour Prague, la population va continuer à croître, soit une raison de plus de voir la demande de logements encore augmenter. Denis Referendum s'est penché sur les retombées de la pollution de l'air sur la santé des Pragois. En se référant aux données rassemblées par le Centre pour l'environnement et la santé, le journal en ligne indique que près de 500 Pragois meurent chaque année en raison de la mauvaise qualité de l'air. Il rapporte également.
Le taux de pollution atmosphérique enregistré à Prague dépasse depuis longtemps les limites définies par la loi et la directive européenne sur l'air. Le tout à un moment où l'Organisation mondiale de la santé recommande de mettre en valeur une politique environnementale plus rigoureuse. Concernant les facteurs qui agissent sur la santé humaine, c'est précisément la mauvaise qualité de l'air qui constitue le facteur à risque le plus grave en Tchéquie.
En 2016, le ministère de l'Environnement a lancé un programme pour l'amélioration de la qualité de l'air. Mais, comme l'indique Denis Referendum, selon les initiatives lancées par les responsables de certains arrondissements de Prague, cela reste inefficace, car les démarches concrètes à entreprendre pour atteindre les objectifs définis ne sont pas précisées. Le programme concerné ne stipule pas, par exemple, les mesures à prendre pour réduire la quantité des particules toxiques dues à la circulation automobile, celle-ci étant une des causes principales de la mauvaise qualité de l'air dans la capitale. D'autres initiatives réclament pour leur part la gratuité des transports en commun, de façon à limiter la circulation automobile.
C'est la fin de notre magazine d'actualité. Cette émission vous a été présentée par Comme de Lannery. Merci de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres sur notre site www.radio.cz/fr. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Twitter. À très bientôt. Ahoy.